chansons des années 60.
Salut les copains
sur RVE.
Vous les copains, je ne vous oublierai jamais.
Il est 10h.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour, Agibis est passé en trombe sur le Japon en faisant des victimes et de gros dégâts. Le puissant typhon a touché l'est et le centre de l'archipel nippon la nuit dernière, provoquant la mort d'au moins 11 personnes. Il était qualifié de sans précédent par des services météorologiques et il n'a pas épargné Tokyo, la capitale japonaise, totalement paralysée par des pluies torrentielles. Des coulées de boue, des glissements de terrain sont aussi signalés et 16 autres personnes sont portées disparues. L'électricité est coupée, les transports figés, les commerces fermés. Seul le match de rugby du mondial Japon-Écosse a pu être sauvé et sera donc joué. Après l'eau, le feu, l'aile sud de la Californie est toujours la proie des flammes ce matin et les pompiers luttent avec acharnement contre d'importants incendies qui ont déjà fait 2 morts et forcé plus de 100 000 personnes à fuir cet état de l'Ouest américain. Ils en font un monument. Une statue de 3 mètres a été érigée par des militants pro-démocratie de Hong Kong. Ils l'ont installée sur la roche du Lion à 500 mètres d'altitude. Baptisée Dame de la Liberté, elle représente une activiste équipée d'un masque à gaz, d'un casque et de lunettes de protection. Et elle tient dans sa main un parapluie, symbole du mouvement de contestation dans ce confetti semi-autonome de l'Empire chinois. La privatisation de la Française des Jeux sera lancée le 7 novembre. Faites vos jeux, car le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui l'annonce ce matin dans les colonnes du journal du dimanche, souhaite qu'elle attire de nombreux actionnaires individuels, comme vous et moi. L'État contrôle actuellement 72% de la FDJ, mais le Parlement a voté le transfert au privé de la majorité du capital. Le gouvernement espère en tirer plus d'un milliard d'euros. C'est la chance au tirage. Des anneaux aux annales, le gymnaste français d'Antibes, Samir Ait Saïd, a décroché hier la médaille de bronze aux anneaux et du même coup sa qualification olympique lors des championnats du monde de gymnastique artistique à Stuttgart en Allemagne. À 29 ans et après une grave blessure, il devient à 9 mois des JO le seigneur des anneaux. Bonne journée.
Tribune Sport, c'est dans quelques instants le temps pour moi de vous faire un petit point météo pour la journée, avec un ciel plutôt ensoleillé et des nuages attendus, ainsi que des maximales qui pourront monter jusqu'à 24 degrés côté température. À présent, eh bien, retrouvons Philippe et son équipe pour Tribune Sport jusqu'à 11h. Très bonne écoute et belle journée à tous sur RVE.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnu.
Eh ben oui, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver là, en ce dimanche 13 octobre, c'était Tribune Rugby. La semaine dernière, c'est le retour de Tribune Sport, avec ce matin une émission très riche, très variée. On va commencer par accueillir le président du tennis club de Chevreuse, Romain Veillet. Romain, bonjour.
Bonjour.
Ça va?
Très bien.
Vous, l'homme de radio, vous avez dû apprécier ce matin nos locaux et nos studios.
Ça me rappelle des souvenirs,
oui, hein.
Ça me rappelle ma jeunesse aussi, et puis c'est un vrai plaisir de venir ici vous retrouver.
Alors, comment on en arrive à devenir président de la section tennis de Chevreuse après avoir eu l'itinéraire que vous avez eu, hein? Vous êtes issu du milieu qu'on connaît bien, d'un milieu qu'on connaît bien, celui du journalisme sportif. Vous avez aussi œuvré dans le foot. Comment on en arrive à finalement prendre la présidence du tennis club de Chevreuse?
Alors, en fait, par défaut physique,
oui.
Pour être très franc, ouais, dans la démarche, moi je suis footeux au départ. Et puis je me suis mis au tennis il y a quelques années.
Comme enfin, beaucoup.
Oui, comme beaucoup, hein, c'est un peu le schéma habituel.
Ouais.
Et puis finalement, j'ai joué de longues années au tennis. Et puis un jour, mes genoux ont rendu l'âme. Et donc là, deux possibilités, puisque je suis cantonné maintenant uniquement au VTT et au sport en ligne. Je me suis dit, il est peut-être temps, j'arrive aussi à un âge où on peut rendre ce que le sport nous a apporté. Et donc à partir de là, des circonstances au club ont fait que la place de président était libre. Et puis il n'y avait pas non plus moult de volontaires, hein, pour être clair. Dans ces moments-là, il n'y a pas grand monde. Je me suis dit, après tout, c'est le moment de rendre. Alors on prend pendant longtemps, et puis dans la vie, à un moment, on finit par rendre.
Voilà, et puis ça vous emmène au micro d'Hervé ce matin. On va saluer aussi un revenant, il était venu au mois de juin, il avait promis de revenir nous parler de sport canin, c'est Stéphane Renaud de la ville. Bonjour Stéphane.
Bonjour Philippe, bonjour Romain, écoutez, c'est un plaisir de venir.
Ouais, ça va, beaucoup d'évolutions, je crois, dans votre domaine depuis le mois de juin.
On va raconter, l'actualité est riche.
Très bien, on aura l'occasion d'en parler en deuxième partie. Je voulais simplement d'abord apporter un petit rectificatif sur ce qu'on avait dit la semaine dernière. dernière. C'est la pelouse du stade du Vieux Moulin et non du stade du Racinet qui a été inauguré pour nos amis donc de la section rugby de Rambouillet, donc rectificatif. Et puis Romain, je pense qu'on voulait vous aussi en tant que radio rendre un hommage à Eugène Saccomano qui nous a quittés en début de semaine à 83 ans. Eugène, c'était quelqu'un qui commentait de façon très charismatique les matchs de foot. Hein. C'était un plaisir d'écouter. Hein.
Alors c'était un plaisir d'écouter. Ouais. Alors c'était d'abord un homme qui avait une culture footballistique extraordinaire. Absolument. Que moi j'ai eu l'occasion de rencontrer quand j'étais plus jeune.
On n'a pas eu l'occasion de se croiser malheureusement, mais
c'était formidable. Et puis c'était une voix.
Oui, une voix.
Une intonation qui est très particulière. Bien sûr. Personne ne l'oubliera.
Non.
Et effectivement, il faut lui rendre hommage aujourd'hui.
Voilà. Et puis, il avait aussi lancé toutes les émissions qu'aujourd'hui, qu'on écoute sur le foot ou même dans d'autres domaines. C'est lui qui a lancé ce style d'émission, c'est-à-dire des émissions sur les débats.
Absolument. Je crois que c'est l'initiateur du talk show qu'on retrouve aujourd'hui sur les grandes radios. Mais effectivement, il a été le précurseur dans de nombreux domaines, même dans l'analyse footballistique, et dans la manière de commenter les matchs, dans la manière de les faire vivre aussi. Et moi, je connais quelqu'un qui est aveugle et qui me disait, ce type-là, il m'a fait voir les matchs.
C'est vrai. Donc, un hommage à Eugène Saccomano qui, en plus, était au générique entre 2005 et 2012 de notre émission Tribune Foot. Il était dans le générique en même temps que Thierry Roland. Ce sont des grands noms qu'on ne pourra pas oublier. Et on dédie donc à Eugène cette émission de ce matin. Alors, comment va le tennis sur Chevreuse,
Romain ? Il va bien. Il continue à se développer, à se structurer. Mmh. On est parti, moi j'ai pris la présidence maintenant il y a 6 ans.
Déjà,
ça passe très vite. On avait un club qui jouait en départemental. Aujourd'hui, on a un club qui joue en championnat de France. On a eu des cours qui ont été rénovés. On a eu une école de tennis qui affiche complet. On a 17 membres du bureau. On a aujourd'hui une responsable communication, une responsable marketing, une responsable commerciale. On a un responsable des projets. Donc en fait, moi je le structure le club comme une entreprise. Mmh. Aujourd'hui, je ne crois pas du tout au modèle associatif. Aujourd'hui, une association qui se développe doit être structurée comme une entreprise.
Oui, non, c'est sûr. Alors, bon, le tennis a toujours été un sport important à Chevreuse. Hein. Moi, je me rappelle déjà, on venait d'arriver à la radio en 88, on y avait interviewé Yves Nastas et Christophe Roger Vasselin. Bon, d'autres sportifs ont été ensuite interviewés sur Chevreuse, hein, Bernard Hinault, Herrero, Le Varité. Et puis vous avez reçu Marie Pierce. Hein, au mois de juin, manque de chance, elle n'était pas là, quelques jours en Grèce, mais bon, vous avez reçu Marie Pierce.
Oui, alors Marie Pierce nous a fait l'immense honneur, puisqu'on l'a sollicité, de devenir la marraine du club. Mm-hmm. Donc elle est venue nous voir le lundi de Pentecôte. Juste après la finale de Roland. Elle a passé la journée, j'ai trouvé extrêmement impliquée, je la remercie encore d'ailleurs. Et ce que je retiens de cette journée magnifique, d'abord c'est le temps qu'elle nous a accordé, parce qu'elle ne l'a pas compté. Mm-hmm. Et puis le deuxième élément, c'est qu'il y avait énormément de jeunes enfants, des jeunes filles, des jeunes garçons qui sont venus, qui ont tous eu droit à leurs dédicaces, leurs photos, etc. Et ce que j'ai trouvé formidable, c'est comment une grande championne qui rend à son sport peut apporter autant de sourires sur les visages des enfants. Et ça, c'est formidable.
Oui, parce qu'il faut dire qu'elle vit à l'île Maurice, elle profite de Roland-Garros pour ce genre d'initiative.
Hein. Absolument, oui, elle vit à l'île Maurice. Alors, elle est entre Miami, l'île Maurice et puis l'Académie de Moratoglou dans le sud de la France. Elle a un emploi du temps qui est excessivement chargé parce qu'elle commente aussi des matchs et donc elle était effectivement à Roland. Donc, dans son planning excessivement surchargé, elle nous a accordé près de 4 heures. Et ça, c'est formidable de pouvoir rendre au sport tous les sportifs ne pour pas. Avant Marie-Pierce, j'avais eu le plaisir d'accueillir au club Marion Bartoli.
Oui.
Et effectivement, je l'avais trouvée vraiment charmante dans ce qu'elle pouvait nous apporter. C'est bien que les sportifs, si sollicités soient-ils, puissent rendre à tous ces jeunes et à tous ces bénévoles aussi un peu de leur travail.
Et donc elle va revenir, c'est la marraine du club, donc ça sera une tradition qu'elle revienne après chaque Roland-Garros.
Alors on va essayer.
Ça va être difficile.
On va essayer de faire plus.
Ouais.
On va essayer de faire plus parce que en fait ce qui se passe c'est que elle est la marraine.
Oui.
Moi j'aimerais bien avoir un parrain.
Eh oui.
Donc je la remercie de nous accompagner.
Henri Lecomte, Yannick Noah.
Alors en fait pour être tout à fait honnête avec toi, ce qu'on souhaite faire l'année prochaine, d'abord on est en train de travailler sur un énorme projet au tennis qui s'appelle Tennis Solidaire.
Oui.
L'idée étant que les joueurs des Yvelines, et d'ailleurs, parce qu'il y a d'autres comités qui s'y intéressent, jouent avec un petit logo Tennis Solidaire qu'on vend 10 euros et qui alimente un fonds de solidarité pour les enfants qui sont défavorisés. Marie-Pierce a trouvé ça génial. Elle souhaite en parler à Justine Hénin et à Amélie Mauresmo.
Oui.
Et puis elle a aussi, bien évidemment, des contacts dans le domaine du sport. Donc ce que j'aimerais faire l'année prochaine, en fait, mon secret espoir, ce serait d'organiser un double mixte avec deux championnes et deux champions. J'ai un nom sur un monsieur que je voudrais absolument faire venir à Chevreuse. Alors pour l'instant ça reste à l'état du rêve, mais je souhaiterais que l'année prochaine Marie Pierce joue en double avec John McEnroe.
Ouf. D'accord. Voilà. Bon, si vous avez tout de suite l'exclusivité, il n'y a pas de problème. Hein. Vous nous appelez, hein, Romain.
Absolument.
Voilà, ok. Alors, pour revenir sur le tennis de chevreuse, chevreuse, c'est une ville importante pour le sport. Hein. Le tennis a toujours été un sport important. Avec le judo, le rugby, c'est les sports phares, c'est le sport roi. Ça continue encore?
Alors, le premier sport a longtemps été le rugby. Mmh. C'est une ville rugbystique par histoire.
Tiens, on avait Xavier Caris la semaine dernière comme, comme intervenant de Tribune Rugby. Oui.
D'accord. Voilà. Donc, effectivement, le rugby, c'est le sport historique à Chevreuse. En fait, ce qui s'est passé, c'est souvent un petit peu le hasard de la vie. On a eu une première génération de garçons qui sont nés en 2000-2001, qui avaient une propension à bien jouer au tennis. Ils se sont inscrits dans le temps. Aujourd'hui, ils jouent en adulte. Et on a la chance d'avoir au club 12 joueurs de seconde série, dont 5 qui aujourd'hui vivent comme des professionnels et donc qui ont permis au club de monter de la départementale à la régionale, puis en championnat de France. Et l'avantage, et ce que je trouve formidable au club, c'est que d'abord, on a un coach de très haut niveau, Patrick Charton, qui est l'ancien coach d'Hicham Arazi, donc c'est lui aussi qui fait la mayonnaise de tout ça. Mais on a la chance d'avoir des joueurs de très haut niveau qui restent au club et qui permettent au club de faire évoluer. Et moi, ce que j'ai comme objectif, c'est à travers cette équipe première de définir des vocations pour les plus petits qui sont là le dimanche, qui les voient jouer et puis qui se disent un jour, c'est moi qui jouerai.
Oui, ben justement, on parlait de 88. Comment on explique cette longévité, cette durée malgré les différents présidents? C'est justement cet état d'esprit, cette âme, alors, cette culture.
Moi, je pense qu'il y a la notion de la culture. Deux, globalement, on s'aperçoit que dans le club, les gens qui se sont inscrits se sont toujours inscrits durablement dans le temps.
Ouais.
Alors, comme dirait Patrick Charton, et j'aime bien cette image, dans la vie, on ne fait les choses que par intérêt, par définition, mais c'est vrai. Mais tous les gens qui s'inscrivent, soit dans le bénévolat, soit dans la vie des joueurs, s'ils restent au club, c'est parce qu'ils y trouvent un intérêt. Si les bénévoles restent, c'est qu'ils trouvent un intérêt. Si les adhérents restent, c'est qu'ils y trouvent un intérêt. Donc en fait, c'est une douce alchimie, une savante mayonnaise qui permet à tout le monde, et quel que soit son âge, de trouver sa place dans le club, qu'on ait du temps pour jouer, qu'on ait du temps pour faire un Scrabble au Clubhouse ou qu'on ait envie de lire un bouquin au coin de la cheminée.
Et vous, le président que vous êtes, quelle est la plus grosse difficulté?
La plus grosse difficulté aujourd'hui,
c'est tout le côté administratif, tous les papiers, ou c'est essayer de canaliser tout ça? Parce que on va en reparler, il y a le tennis loisir, il y a le tennis compétition, quoi.
Alors en fait, la plus grosse difficulté, elle n'est pas sur l'organisation d'événements, sur le nombre de personnes qu'on peut avoir à disposition. Aujourd'hui au club, la principale difficulté quant au développement, c'est les structures. Alors, je rends hommage à la mairie de Chevreuse et à Madame le maire Anne-Héry qui a fait énormément puisqu'on a rénové l'ensemble des cours extérieurs. Aujourd'hui, on est le seul club en France, je crois, évoluant en championnat de France sans structure couverte. Donc, on est en train de travailler dessus. C'est pour moi le gros dossier de mes prochains mandats, si mandat il y a. Mais l'objectif, c'est de pouvoir doter le club de structures couvertes, ce qui changerait totalement le modèle économique, qui nous permettrait de créer des équivalents temps plein, et puis qui nous permettrait aussi d'assurer dans le temps peut-être une relation avec les écoles, pour que les enfants, parce que c'est aussi une difficulté, c'est un sport individuel, donc les enfants ils quittent l'école, faut que les parents les emmènent au tennis. L'objectif, ce serait de créer une relation plus forte pour qu'éventuellement à terme, mais bon c'est que des projets et que des idées, on puisse avoir un sport études, et puis qu'on ait encore une équipe plus forte, peut-être en championnat de France, mais peut-être plus haut encore, en N3, en N2 en tout cas.
Romain, il y a eu une petite désaffection du pôle tennis à un moment, chez les jeunes. Aujourd'hui, ce phénomène, c'est terminé?
Non.
C'est reparti, non? Non, les jeunes encore bout de le tennis?
Alors en fait, globalement, un sport fonctionne. Ouais. Quand je parle avec mes amis du rugby, du football, etc. Ça marche en fonction des résultats de l'équipe nationale. Alors quand une équipe de foot gagne la Coupe du Monde, inévitablement ça fait gagner des financiers parce qu'ils veulent tous être Griezmann, Giroud, etc. Au tennis, il faut être absolument... moi je suis comme Saint Thomas, hein, je crois que ce que je vois, il n'y a aucun gamin au club qui, quand il joue un match amical contre un copain, se prend pour un tel ou un tel. Donc en fait, il y a un premier problème qui est, il n'y a pas de tête de liste ni chez les filles, ni chez les garçons. Le deuxième élément, c'est que on est dans une démarche individuelle. Donc, quelque part, les parents sont directement impactés et les parents, ils vont aussi travailler toute la semaine. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'ils emmènent les enfants le week-end. Ils jouent un match, on leur dit vous jouez le lendemain à 8h, puis le surlendemain à 9h. Ça crée des contraintes logistiques. Et puis, le troisième élément qui est compliqué, c'est que dans une équipe de football, il y a un élément de lien. Dans le domaine du tennis, chaque chemin de développement du garçon ou de la fille, il est individuel. C'est un peu comme quand on grandit. Une année, on va prendre un centimètre, l'année d'après, on en prend quatre. Alors que, globalement, on nous dit qu'il y a des critères, il faut que vous soyez à tel classement, à tel âge pour être dans les pôles, etc. Non, chaque chemin est individuel. Et honnêtement, aujourd'hui, le tennis va pas mal, mais c'est pas la tête de...
Ouais, ça peut être l'embellie qu'il y a eu dans les années 80, même 90.
Ça, c'est complètement terminé.
Et pareil pour les femmes ?
Alors, sur les femmes...
Parce que je sais qu'il y a des clubs de la région qui ont eu aussi des petits problèmes pour trouver des femmes pour jouer au tennis.
Ah bah concrètement, de manière très opérationnelle, je te donne un exemple. Le tournoi féminin de Chevreuse de juin dernière a été annulé.
Ah oui,
faute de nombre de participants. Mm-hmm. Les jeunes filles, globalement, on s'aperçoit qu'elles aiment bien évoluer en groupe. Mm-hmm. Et en fait, dès que la compétition devient un peu individuelle, donc c'est en dehors des matchs par équipe, il y a une vraie difficulté. Donc les jeunes filles préfèrent être en groupe entre elles. Donc il y a une désaffection pour le tennis. Et ça, c'est une vraie difficulté.
Et est-ce que c'est pas aussi la priorité d'un club comme le vôtre d'essayer de faire pratiquer ce sport en famille? C'est aussi l'avantage. Alors, on peut faire du tennis en famille.
On peut, un, faire du tennis en famille. Deux, on n'est pas obligé de licencier aussi et les enfants et les parents, mais on peut créer des animations au club pour que les parents non licenciés accompagnent leurs enfants à travers des petites animations. Nous, on va en faire 20 cette année, le samedi après-midi. Donc, les parents, qu'ils soient licenciés ou pas, accompagnent leurs enfants. Et puis, on se retrouve tous ensemble le samedi pendant 2 heures pour faire des jeux. Mmh. Et là, on n'est pas dans la notion de compète ni de résultat. On est là, et c'est l'objectif toujours du tennis, c'est prendre du plaisir.
Bien sûr. Stéphane, vous, le tennis, ça vous interpelle? Ça vous dit quelque chose? Vous, l'homme de sport canin, vous aimez le sport en général?
Oui, en général, j'ai pratiqué un petit peu le tennis.
Ouais.
J'étais pas très très fort, mais j'ai pratiqué un peu le tennis, j'aime bien. Ça. Je l'ai pratiqué sur un mode plutôt détente, avec les copains. Voilà, c'était assez sympa. Bah, en double, en vacances, des choses comme ça. Ouais.
Bah, c'est le problème d'un club comme celui de Chevreuse. Il y a la compétition, il y a le loisir. Il faut, en tant que présent, harmoniser tout le monde. Alors, c'est peut-être ça la difficulté.
Alors moi, je dis toujours qu'il faut que chacun trouve sa place dans le club. Peu importe son niveau et peu importe son âge. C'est-à-dire qu'on parle toujours d'un club, des cours de tennis et des animations. Mais on peut aussi imaginer, et moi j'y tiens très fort, à ce que le club de house, par exemple, soit un lieu de vie. Mm-hmm. Alors... moi, j'ai envie qu'il y ait une PlayStation au club.
Bien sûr.
Pour que les petits viennent faire des tournois de FIFA. Mmh. Et j'ai envie qu'il y ait des jeux de cartes. Pour que les plus anciens puissent taper une belote, un tarot, etc. Mmh. Donc, l'élément, c'est... le club, c'est un élément de lien social. On y pratique du sport, mais on y vient aussi faire des rencontres. Et je crois que, moi, en tant que président, mais aussi pour tous ceux qui pratiquent le sport, on vient aussi vivre une aventure humaine et de partage. On est ensemble dans un lieu qui ne nous appartient pas, mais qui nous fédère, qui est celui du sport.
Oui. Et justement, vous avez beaucoup d'animations hors tennis.
Alors, on essaie de les développer. Ouais. On fait un peu de VTT le dimanche matin, ça permet de faire un peu de foncier. On essaye aussi de faire des rendez-vous qui sont des rendez-vous de convivialité autour de la bouffe.
Des barbecues après des tournois,
Des barbecues après des tournois, par exemple, n'est-ce pas? Donc on essaye de faire ce genre de choses. Ouais. Oui, on essaye de faire venir les gens en dehors du mot et tennis ou uniquement du mot sport. L'objectif, c'est de fédérer des gens au clubhouse sur un lieu de vie.
Combien de licenciés là au 13 octobre? Combien de licenciés depuis le début de saison?
282.
D'accord, ok. C'est un chiffre qui est bien, qui a été mieux, et vous êtes encore capable d'accueillir d'autres futurs éventuels pratiquants et pratiquantes?
C'est un chiffre qui a été mieux.
Oui.
La tendance, c'est -1,2, puisque j'étais en réunion jeudi soir. L'objectif, c'est de développer. Mm-hmm. Et pour nous, le développement, il n'est pas lié à une manque de dynamique commerciale, marketing, de fidélisation client, etc. Il est lié à un élément structurel. Dès que nous aurons, et si nous avons la chance d'avoir des cours couverts à Chevreuse, toute l'histoire va changer. Mmh. Et très sincèrement, moi, l'objectif, c'est que si demain il y a 2 cours couverts à Chevreuse, on double les effectifs.
Ouais, parce que, il y a combien de cours actuellement là sur
aujourd'hui,
Chevreuse?
Aujourd'hui, on a 6 cours.
Moi, je le sais, mais ceux qui ne sont pas sur Chevreuse.
Alors aujourd'hui, on a 6 cours extérieurs. Ouais. Par contre, on a 2 cours polyvalents couverts. Mmh. Et donc, tous les cours pendant l'année pour les adultes et pour les enfants se déroulent en intérieur dans des salles qui sont chauffées.
Ouais. Donc, ça veut dire que ça fonctionne, ça peut fonctionner 7 jours sur 7, vos créneaux?
Ça fonctionne, ces gens sur 7, c'est-à-dire qu'il y a des créneaux. Alors, il y a une particularité aussi en tennis, c'est que nous, les professeurs qui donnent des cours sont des salariés du club.
Bah oui.
Ce n'est pas des bénévoles. Mm-hmm. Donc, ce sont des AMT ou des brevets d'État, donc des gens qui sont salariés. Donc, ce qui change aussi dans le modèle économique, c'est que quand un professeur donne un cours à 4 ou 6 joueurs, si demain, il y a 2 structures couvertes avec une petite séparation, il peut donner un cours à 8 ou 12 personnes. Donc, dans le modèle économique, ça change tout. Donc, ça veut dire qu'ensuite, on peut intégrer plus de monde. Donc, aujourd'hui, on a un système qui fonctionne bien. Les gens s'entraînent tous les jours. Nous, on a des cours jusqu'à 22h15 le soir. Et puis, on a le week-end, mais pas le dimanche, parce que c'est réservé à ceux qui veulent le pratiquer dans une autre forme.
Et le matin, 7h du matin, c'est possible?
Alors, 7h du matin, c'est possible, mais à ce moment-là, ça sera que pour l'élève tôt.
Ouais, c'est ça. Donc, si on veut venir vous rejoindre, c'est pas exclu encore.
Alors, c'est jamais clos. On peut s'inscrire quand on veut. Alors les gens préfèrent pratiquer souvent le tennis quand il fait un peu beau.
Oui, bah oui.
Mais globalement, on a aussi nous deux structures qui sont, enfin en tout cas, on a deux terrains en terre battue synthétique qui permettent de jouer pendant toute l'année. Donc on peut jouer au tennis toute l'année. Il n'y a pas de clôture de licence. Les gens peuvent venir quand ils le veulent. Il suffit de se connecter soit sur le Facebook du club, soit sur le site web et de demander les coûts des adhésions. Et puis ensuite, si les gens veulent prendre des cours, de regarder s'il y a de la place encore dans les cours.
Oui, ça coûte combien, grosso modo? Grosso modo,
une adhésion aujourd'hui, ouais. une licence enregistrée, validée, ça coûte 30 euros. Après l'adhésion, donc ce qui permet l'accès aux cours et de pratiquer le tennis dans un cadre loisir, on est à un peu moins de 300 euros l'année. Mm-hmm. Après, quand on prend des formules, il y a des formules avec une heure de cours, deux heures de cours, et puis on a un team élite pour les plus jeunes, où là, on fait, je crois, trois fois une heure et demie de cours par semaine.
Et si on veut franchir le cap de la compétition, ça se passe comment, Romain ?
Alors, pour franchir le cadre de la compétition, il faut faire des matchs officiels.
Oui.
Et souvent, c'est un élément qui n'est pas facile à vivre pour les tout-petits. Donc en fait, on commence par les faire jouer en match par équipe.
Mm-hmm.
Donc là, ils sont tous ensemble, il y a deux simples, un double. C'est relativement ludique et puis ça leur permet de découvrir la compétition. Après, c'est une démarche qui est effectivement individuelle. Chaque joueur va sur le logiciel de la Fédé, regarde les tournois qui sont à droite ou à gauche, et puis s'inscrivent et ensuite gèrent leur carrière ou la saison en fonction de leur disponibilité, des dates de tournois et puis de ce qu'ils peuvent avoir comme impératif personnel. Mais donc on est un petit peu dans le groupe sur la période championnat et puis un petit peu dans une démarche individuelle quand les joueurs veulent faire de la compète tout au long de l'année.
Votre vocation, c'est d'être aussi un club avant tout formateur, même pour ces jeunes. Un jeune ou une jeune qui aurait d'excellents résultats, à un moment, ils partiront, ils doivent quitter le club, c'est dans la logique des choses.
J'ai envie de dire non.
Oui.
Non, non.
Donc ça veut dire que vous avez les moyens de les garder.
Alors d'abord, un, on a des moyens.
C'est bien.
D'abord, un, nous, on est structuré aussi financièrement pour les garder.
Mm-hmm.
Le deuxième élément, c'est que après se pose le problème des compétences. Et nous, on a des compétences au club. On a quand même un coach qui a fait plusieurs quarts de finale de Grand Chelem. Hein, il a gagné le tournoi de Monte Carlo aussi.
Ah oui, c'est pas rien.
Avec Hicham.
Ouais,
bah oui. Donc la compétence, la compensation, on l'a. Les moyens, on les a. La structure, on est en train de travailler dessus. L'objectif, très clairement pour moi, c'est continuer à développer. Que demain, il y ait des joueurs négatifs, qu'il y ait peut-être des joueurs numérotés. Mais moi, je pars du principe de l'adage qui n'avance pas, recule. Mmh. J'ai des ambitions pour le club. Après, elles doivent être en raccord avec les moyens dont on dispose. Mais je ne suis pas quelqu'un qui n'est pas ambitieux pour le club. Donc on va faire des choses et on continuera à développer. Et on a les moyens de garder ces jeunes. Et puis on a aussi les moyens d'en intégrer de nouveaux. Mmh. Puisque nous, on vient de signer un nouveau joueur qui arrive de la Ligue Île-de-France, mais qui arrive d'un autre club. Il a quitté un gros club pour venir jouer à Chevreuse. Et il jouera en numéro 1 championnat de France cette année.
D'accord, ok. Donc un club qui garde donc des tennisman ou tenniswoman au niveau, hein. Ça c'est possible.
Ça c'est complètement possible. L'objectif, ouais, ouais. C'est un, nous c'est la formation, et c'est que quand ils sont formés, on puisse les garder.
Mmh. Quels sont vos rendez-vous phares dans une saison? Vous avez des tournois, des rendez-vous importants. On s'était vu il y a un an et demi, hein, vous aviez organisé les finales Sud-Evin de Masters au début de la saison 2018-2019.
Voilà, en fait, c'était, ouais, un cadeau empoisonné de mon ami Jean-Louis. Puisqu'en
c'est,
fait,
c'est lui qui a pris le relais cette année. Enfin,
ah, oui.
C'est Abim, mais enfin,
absolument.
C'est lui qui avait pris le relais cette année au niveau de l'organisation. Hein.
Oui, en fait, on a été mandaté pour organiser les phases finales du Master Sud, mais globalement, donc il y avait lieu en septembre, globalement, nous, les périodes phares et les grands moments de l'année, c'est le tournoi Open, qui a lieu au mois de juin. D'ailleurs, je vous annonce cette année, puisqu'on a travaillé dessus cette semaine, qu'on devra avoir un joli plateau, parce qu'il y a une dotation financière aussi sur le tournoi cette année.
Donc ça c'est au mois de juin, complètement les dates.
On connaît pas encore les dates, d'accord. Mais en gros, ça commence première semaine de juin, ça finit vers le 2-3 juillet en moyenne. Et puis, le gros moment, ce sera, un, il y a les matchs des équipes jeunes qui se déroulent à partir des vacances de Pâques, et puis les 4 week-ends de B, plus les 2 premiers week-ends de juin, on a l'équipe 1, messieurs, qui joue en championnat de France, donc on se déplacera 3 fois, on recevra 2 fois, et le tirage au sort aura lieu le 15 décembre. Alors on espère qu'on aura, comme l'année dernière, la chance d'aller voir des contrées du type Strasbourg, etc.
Très bien. Romain, tiens, vous allez nous lancer la pub et puis la pause musicale, ok?
Alors allez. On se retrouve.
Nouveauté à Labassienne de menuiserie. Améliorez les performances énergétiques de votre habitation et faites des économies d'énergie en optant pour l'isolation par l'extérieur. Demandez vos devis gratuits au 01 34 85 87 32. 01 34 85 87 32. Abbassienne de menuiserie, votre spécialiste en menuiserie sur mesure, reconnu au Grenelle de l'environnement. Showroom, 27 rue de Chartres, opéré en Yvelines. Voir conditions magasin.
Vous êtes à la recherche d'un terrain, d'un local d'activité, de bureau, d'un entrepôt, d'un local commercial ? Vous souhaitez connaître les opportunités et disponibilités actuelles? La bourse locaux de la communauté d'agglomération vous permet de trouver sur l'une des 36 communes du territoire des opportunités immobilières et foncières répondant à vos besoins. En collaboration avec les professionnels de l'immobilier, la bourse locaux est gérée par le service développement économique de Rambouillet Territoire qui a pour mission d'aider les entreprises à s'installer dans les meilleures conditions. Plus d'informations sur www.rt78.fr ou en contactant le service développement économique au 01 30 57 20 61. Vous voulez devenir propriétaire dans un cadre rural avec une qualité de vie exceptionnelle, avec des équipements adaptés, une école, niveau maternel et primaire, des équipements sportifs, une médiathèque, une salle polyvalente et des associations dynamiques? Pont-Évrard, à 3 km de Saint-Arnaud en Yvelines, est un village dynamique, résidentiel, adapté pour accueillir votre famille. Il est desservi par des lignes de bus régulières et situé à proximité d'une gare routière vers RER et TGV et de l'autoroute A10 à 11. Alors découvrez le lotissement L'Orée du Bois en lisière de forêt à Pont-Évrard. Et il est éligible au prêt à taux zéro. Contactez la mairie, 5 places de la mairie, au 01 30 41 22 13. 01 30 41 22 13. Changez de vie et devenez Ivry Pontin.
One by one, take them down. Pictures of you and me, skated across the ground. I don't know why I feel so down. Let it flow. She said you'll be fine. Please don't go. But she took the crown. I feel low. Now my queen is gone. I don't know why I feel so down. Let it flow. She said you'll be fine. Please don't go. But she took the crown.
Cette émission, vous pourrez naturellement la réécouter en podcast très rapidement dans le courant de la journée. Romain, vous savez qu'on a beaucoup investi dans le tennis. Hein, on organise chaque année des trophées donc RVE. Ça vous intéresserait un jour de,
mais oui,
de participer à ces...
Mais oui, hein, mais bien sûr.
Très bien. Eh ben, on va en discuter.
Ce qui est dit, est dit.
Voilà, on va en discuter avec Jean-Michel Esprit. Il faut savoir que cette année, c'est le tennis club de Rambouillet, emmené par Jean-Louis Mazard, donc qui s'est imposé. Cernay-la-Ville, bah, malheureusement, n'a pas pu remporter pour la troisième année consécutive ce trophée. Le Perret, en Yvelines, a quand même été le club qui a ramené le plus de concurrents et concurrentes. Et puis, c'est Offargis qui a non seulement gagné le prix du plus jeune et la plus jeune participante et du plus âgé et de la plus âgée participante. C'est aussi le but de ce tournoi, hein, cette vocation du tournoi. Donc on va écouter les quatre représentants des clubs concernés, à savoir Marc pour le TCR, Pascal pour Offargis, Franck pour le Perret en Yvelines et Vincent pour Sernay-la-Ville. Et vous allez voir, interview une nouvelle fois faite dans la convivialité et la bonne humeur. Allez, je suis avec les représentants de l'édition 2019 des trophées Herveux. Alors, on commence avec le club qui a gagné, le tennis club de Rambouillet. C'est une grande première pour vous. On en est ravis.
Tout à fait. C'est notre deuxième participation au tournoi RVE et on arrive à gagner ce trophée qui est très sympathique de double, qui nous fait rencontrer donc trois autres clubs et dont l'ambiance est très sympa.
Voilà. Donc, c'était parmi vos objectifs, le gagner assez rapidement, non?
Oui, de ramener au moins un trophée. Donc, ouais. Sur les quatre, on n'en a jamais ramené un. Donc, on essaiera de faire mieux l'année prochaine et les autres années. Donc, l'objectif, c'est que c'est sûr que tout le monde gagne, mais pour nous, c'est sympa.
Bon, vous êtes le dernier club ayant donc intégré les trophées. Tout de suite, vous êtes rentré donc dans le vif du sujet. Ça plaît cette ambiance. Hein. C'est vraiment bon enfant. Ça ouvre aussi la possibilité de compétition à certains de votre club.
Oui, c'est très intéressant pour tous les participants parce qu'on trouve n'importe quel âge, n'importe quelle famille, n'importe quel adhérent et c'est très demandeur. Et peu de gens participent à des doubles, donc c'est une très bonne ambiance.
D'accord. Alors, on va maintenant pour le deuxième club, c'est ça? C'est Pascal Combe. Pascal, pas trop déçu, deuxième?
Non, pas trop déçu. On n'a pas beaucoup de victoires cette année, mais bon, on ramène trois trophées sur les quatre. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est dû à un nombre de participants très important. On a réussi à avoir 24 de nos adhérents qui ont répondu présent pour 24 joueurs et joueuses possibles. Donc ça, c'est une bonne satisfaction. On a et puis on a le trophée chez le plus jeune et la plus ancienne en même temps. Donc on gagne avec un petit jeune de 8 ans et avec une petite jeune de 74 ans, si j'ose dire. Voilà, donc on est content. Toutes les générations et familles du club ont été représentées au Fargis.
Je crois que vous êtes avec le Perret maintenant, le plus ancien club de ces trophées. Hein. Vous êtes à l'origine des trophées, avec nous.
Alors c'est possible, ça remonte à un moment où... ou les moins de 20 ans comme on dit. Donc c'est aussi une satisfaction d'être encore présent et puis année après année d'arriver à relever le défi en début d'année en faisant jouer un certain nombre d'adhérents, quel que soit leur âge, leur niveau et leur sexe. Voilà, c'est
Alors après Marc de Rambouillet, après donc Pascal d'Offargis, on a Franck maintenant du Perret. Franck, pas trop déçu?
Non, puisqu'on finit deuxième tout de même en nombre de victoires. On a eu du mal contre Cernay hier, mais finalement deuxième. Et puis deuxième place également pour le nombre de participants, donc avec 22 participants sur 24, ce qui est très satisfaisant pour le Perret. Motivant pour l'initiation à la compétition, en particulier pour les plus jeunes, qui prennent ça très au sérieux finalement. Donc il faut être derrière eux et les motiver pour continuer.
D'accord. Bon, vous revenez pour la gagne l'année prochaine, non?
Oui, parce que là, deuxième sur la deuxième année où on est deuxième, bon, il va falloir qu'on s'y mette quand même pour revenir.
Vous êtes devant au Fargis, justement. Allez, et justement, du côté de Sernay-la-Ville, Vincent, pas trop déçu d'avoir laissé le trophée?
Non, bon, ça faisait deux ans qu'on avait le trophée. Effectivement, on a un peu pêché là sur les jeunes cette année. On a manqué de 4 jeunes sur 6, donc voilà. Bon, sinon, au niveau participation, on fait un peu mieux que l'année dernière, 16 participants quand même. Et puis, voilà, donc des matchs très sympas, un bon accueil de la part de Marc, merci, et puis une belle organisation de Franck, Pascal et Marc qui poussent le trophée RVE tous les ans, c'est super.
Oui, voilà. C'est des trophées sur lesquels vos clubs sont très attachés, ça perdure depuis des années, et nous, Radio, on y est sensible, hein, on avait lancé ça pour faire pour organiser une épreuve en tant que communication, on ne pensait pas que ça durait avec un tel état d'esprit, hein. Chapeau à vous en tout cas.
En début de saison en plus, oui, c'est pas facile pour rassembler, mais on arrive toujours à avoir une belle rencontre entre ceux.
Marc, le mot de la fin, merci de nous recevoir pour la remise des prix.
De rien, et puis à l'année prochaine pour un tournoi encore meilleur, avec plus de participants et avec le beau temps.
Merci messieurs en tout cas. Voilà, donc c'est ça le tennis. Hein,
Mais oui, bien sûr que c'est ça, c'est des moments de convivialité.
Très bien. Le sport canin, vous aimez?
Alors, je ne connais pas, et je ne demande qu'à découvrir.
Justement, on est ravis de retrouver notre ami Stéphane Renaud. Hein. Donc, Stéphane, vous étiez venu au mois de juin, hein, juste après, tiens, la venue de Marie Pierce à Chevreuse. Quoi de neuf sur la planète sport canin depuis ce mois de juin? Je crois qu'il s'est passé énormément de choses.
Oui, il s'est passé beaucoup de choses, effectivement.
Ah, ouais.
Et l'actualité a bougé un petit peu à l'époque.
Alors, on va rappeler aux auditeurs que vous venez d'Olainville, donc près d'Arpajon, hein, c'est tout près d'ici.
Oui, exactement. Voilà. On est de, pas très loin d'ici. Mmh. Et en fait, l'actualité est très on est obligé d'en parler. C'est, si vous voulez, je vous avais parlé au mois de juin qu'on organisait normalement tous les ans, notre fédération organisait des sélectifs qui permettent de sélectionner les meilleurs chiens de France pour aller au championnat de France Ring, qui est une discipline les plus difficiles au monde.
Et qui est un véritable sport, hein, j'ai eu l'occasion de le voir sur Dourdan.
C'est extrêmement compliqué, c'est vrai qu'on met 3 à 4 ans pour préparer un chien. Et si vous voulez, cette compétition avait été annulée et supprimée de manière unilatérale par la Société Centrale Canine en la personne de Monsieur Mottet. Donc, pour un différent, si vous voulez, qui s'était passé l'année dernière au championnat de France en 2018, il avait été sifflé par les spectateurs des concurrents qui n'étaient pas contents sur une modification de règlement dans laquelle il y avait eu un manque de concertation, de dialogue, etc. Et ça avait amené à une confrontation, des sifflets à ce moment-là, à l'ouverture. Donc, par mesure de rétorsion et de sanction, il avait décidé de supprimer les sélectifs et le championnat de France.
Ça paraît quand même incroyable. Ouais.
C'est pas quelqu'un que nous avons élu, donc on ne peut pas élire nos représentants. On n'a pas le droit d'élire nos représentants. Dans notre fédération, les utilisateurs n'ont pas de représentants élus. Mm-hmm. Et donc, si vous voulez, moi qui suis président du club, où là par contre c'est une structure démocratique, d'accord, comme toutes les lois de 1901 qui respectent la loi, et j'ai donc. Je suis président d'une autre association qui défend le ring. Et là, on a dit, on ne pouvait pas laisser passer ça. On s'est associé à une autre association qui s'appelle le MPR, qui défend aussi le ring. On a décidé de mettre notre énergie en commun et nos efforts et nos moyens humains et financiers pour traduire en justice la SCC pour qu'elle infléchisse sa décision et que la justice nous donne raison parce qu'on se sentait victime au-delà d'une agression, d'une injustice énorme.
Et donc, la justice vous a donné raison, apparemment. Hein.
Alors, ça a été. Donc, au mois de juin, j'en ai pas parlé vraiment parce qu'on était en pleine. La décision n'avait pas été prise. On a gagné en première instance, donc un jugement à date fixe. Ensuite, on a gagné. La SCC a souhaité faire un référé pour ne pas être obligée d'organiser sélectif. Et au final, elle l'a perdu. Ensuite, ça ne suffisait toujours pas. Elle a souhaité faire un appel qu'elle a encore perdu. Là, elle a été condamnée à nous verser en tout 6 000 euros aux deux associations en tout, hein, sachant que nous avions eu un peu plus de 12 000 euros de frais et que nous sommes une petite structure, donc on n'a pas de gros moyens. L'adhésion de cette association qui défend le ring, c'est 5 euros par an, donc vous voyez, c'est pas l'argent de notre leitmotiv. Et donc nous avons gagné, et aujourd'hui, donc grâce à ça, bah, évidemment, des gens comme moi se sont mobilisés pour organiser ces grandes compétitions qui demandent beaucoup d'énergie, qui demandent beaucoup de bénévoles et du temps, de l'argent pour être organisées dans des conditions correctes. Donc Olainville organisera le club dont je suis président, le premier sélectif du championnat de France ring de la régionale Bourgogne et Île-de-France.
D'accord. On connaît la date, Stéphane ?
19, la semaine prochaine.
Ah, d'accord.
19 et 20 octobre.
D'accord. Donc venez sur Olainville. Hein. Voilà. On va rappeler que c'est près d'Arpajon.
Tout à fait, à côté d'Arpajon, ça touche Arpajon.
Oui, on y reçoit très bien nos Kerveux. Hein, donc il n'y a aucun problème. Ça veut dire que la sérénité va quand même revenir dans votre sport.
Je ne pense pas, parce qu'en fait, si vous voulez, actuellement, on a imposé quelque chose à la Société Centrale Canine et je ne crois pas que la sérénité va revenir, puisque si vous voulez, elle l'a fait à contre-cœur, elle y est obligée, elle a été condamnée à le faire. Mm-hmm. Si vous voulez, elle s'est battue jusqu'au bout pour que ça ne puisse pas se faire. Et aujourd'hui, les pouvoirs publics, le ministère intérieur a fait défaut des contrôles qu'il aurait dû faire tous les ans de cette association-là, qui n'a pas été contrôlée pendant presque 30 ans, 25-30 ans. Et donc, ça a apporté des délais, notamment sur les comptes. Les comptes ont été transmis quand on les a demandés, mais la SCC a eu du mal à les donner, d'ailleurs. Et en fait, aujourd'hui, le fait de ne pas être surveillé, de ne pas être contrôlé, il y a eu des dérives autoritaires, des dérives financières, etc. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une situation apaisée. De plus, notre dossier n'est pas le plus important. Imaginez-vous bien que le ministère intérieur a beaucoup d'autres choses à fêter et on vient d'enterrer notre dossier, je l'ai appris là, notre dossier était enterré et le ministère intérieur a estimé qu'il n'avait pas le temps de s'occuper de ça et il l'a mis de côté et on a déplacé un fonctionnaire qui s'occupait de ce dossier. Et il faut savoir que ce sont des dossiers extrêmement techniques, donc on communique beaucoup, on a beaucoup communiqué avec ce fonctionnaire pour lui expliquer ce qu'il avait à faire, enfin pas ce qu'il avait à faire mais ce qu'étaient les affaires, comment fonctionnait la SCC. C'est un milieu qui est très technique, qui est très précis, qui demande des compétences, etc. Donc je me dis, on n'est pas du tout sorti.
Donc ça veut dire quoi pour l'avenir? Quelle suite ça peut avoir? Quelles conséquences?
Je ne sais pas où.
Pour l'avenir.
En fait, voilà. En toute honnêteté, cette année, ça leur a été imposé.
Ouais.
Je ne sais pas comment ça va se passer. On ne peut toujours pas élire nos représentants. La SEC n'a pas les statuts en conforme à la réglementation. Voilà, le ministère de l'Intérieur estime qu'il ne veut pas faire d'ingérence. Il voudrait que ça se règle entre nous. Il nous a demandé d'aller en justice. On a gagné, on a réussi. Mais il n'y a toujours pas un signal fort des pouvoirs publics pour imposer à la SEC la législation. Quoi.
Tout mais simplement. C'est quoi? C'est des querelles de personnes? C'est des égos?
Non, je crois même pas. Je crois que, si vous voulez.
Pourquoi? Parce que ça paraît incroyable
des,
quand même.
Des gens qui s'auto-élisent depuis 20 ans, vous savez, ils n'ont pas envie de partir.
Oui.
Vous comprenez là? Donc, laisser ça passer, ça les dérange un peu. Alors, ouais. Ils nous disent qu'ils travaillent beaucoup. Nous, on leur aura pas demandé de travailler beaucoup. Hein, c'est ce qu'ils ont souhaité le faire. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a un problème démocratique au sein de la SEC. Ensuite, si vous voulez, les utilisateurs et le monde de la SEC, c'est deux mondes bien différents. Vous avez un exemple tout simple, c'est le berger allemand. Aujourd'hui, le berger allemand, les clubs de race, que ce soit français ou allemand, sont allés sur une surangulation du chien, et on s'en est retrouvé avec des fémurs déformés, etc. Et la plupart des bergers allemands qui naissent aujourd'hui en France ou en Allemagne sur des nids de beauté, eh ben, sont inaptes au travail. C'est un peu triste pour une race de travail. Inaptes physiquement, et en plus, ont perdu très souvent les aptitudes comportementales parce que les sélections n'ont pas été faites dans le bon sens. Ça a été dénoncé par des experts du ministère de l'Agriculture pendant le rapport de 2015. Donc on n'est pas du tout à côté de nos plats quand on dit qu'il y a un vrai problème. Aujourd'hui, vous avez des gens qui, parce qu'ils aiment un physique, ont joué à Dieu dans le monde du chien et se sont mis à sélectionner des chiens par rapport à ce qu'ils aimaient regarder. Or, un canidé, parce que le chien fait partie des canidés comme le loup c'est une race, le chien c'en est une autre, voilà, ils appartiennent à la même espèce. Et donc, on n'a pas vu de loup angulé qui a le train arrière qui descend, on n'a pas vu de loup avec le nez écrasé, on n'a pas vu, vous voyez ce que je veux dire, s'il y avait des différences de gabarit dans les loups, ça c'est vrai, mais vous n'avez pas de loup qui fait 3 kilos. Mmh. Et donc, à force de jouer à Dieu, on a fini par abîmer, on fait naître des animaux qui ne sont pas forcément en bonne santé, ou qui ont pire, ont des problèmes comportementaux assez importants par rapport à des chiens domestiqués. C'est un peu dommage.
Oui.
On a travaillé pendant des années pour domestiquer des chiens et aujourd'hui on repart en arrière. Quoi.
C'est pas très rassurant pour les gens qui nous écoutent et qui voudraient éventuellement s'intéresser à votre discipline ou venir dans vos clubs. Quoi.
Non, mais ce qui est triste, c'est que ce qui va rassurer un peu les auditeurs, c'est qu'aujourd'hui les chiens inscrits au LOF, c'est 4% du cheptel français. Ça veut dire que 96% des chiens ne sont pas du tout dans ce système-là, donc ne sont pas vraiment regardés par les CE. Donc c'est soi-disant une société qui est censée s'occuper, administrer le chien en France, etc. Mais la partie la plus importante, la quasi-totalité des chiens, n'intéresse pas à la SCC. Mmh. Les 96% de chiens sans papier. Mmh. Les chiens qui sont dits des croisés, des bâtards, ce que vous voulez. C'est complètement incroyable, quoi. C'est incroyable, on marche sur la tête. Et à côté de ça, vous avez ces 4% de chiens. Dans ces 4% de chiens, combien sont sélectionnés de manière cohérente? On veut rester dans des races, alors on finit par tourner sur soi-même. On finit par avoir des chiens avec les mêmes génotypes, etc. Et donc avec des maladies génétiques qui se développent. Le Doberman qui a une régression au niveau de son espérance de vie, etc. etc., etc. Et quand on regarde, j'ai dans mon club une personne qui est super intéressante, Jean-Luc Dégo, qui est un historien du monde du chien, etc. On a ressorti, il nous a ramené tout un tas de photographies, de gravures, de très anciennes, hein, qui vont de l'Antiquité à aujourd'hui, etc. Et on s'aperçoit qu'effectivement, quand on regarde les types de chiens qu'on avait au XVIe siècle, XIXe siècle, début du XXe siècle, etc. Et quand on voit de ces 30, 40, 50 dernières années, on a fait n'importe quoi. Vous prenez un Doberman, dans les années 40, ça faisait 35 kilos. Un Rottweiler, ça faisait 35 kilos. Aujourd'hui, un Doberman, ça fait 50 kilos. Un Rottweiler, ça fait 50, 60 kilos. Donc en fait, le berger allemand, on a suranglé l'arrière pour qu'il ait la croupe qui touche presque le sol. On marche sur la tête.
Mmh. Voilà. Quelqu'un vous interpelle, Romain, vous?
Moi, je suis stupéfait.
Ouais.
Alors, je l'avoue très humblement, je ne connais pas du tout ce monde-là.
Ouais.
Mais d'abord, je trouve ça extrêmement intéressant et constructif.
Mm-hmm.
Et je suis stupéfait d'apprendre de telles évolutions.
Ouais.
J'ai envie de dire qu'on a dénaturé l'origine des choses, quoi.
Mm-hmm.
Et c'est très intéressant.
Alors, en fait, si vous voulez, le chien est domestiqué depuis plusieurs milliers d'années. Mm-hmm. Ça ne veut pas dire. C'est un animal qu'on a sélectionné pour nous convenir. L'homme a fait une sélection assez drastique, c'est vrai, effectivement. Les chiens naissent soumis et obéissants, contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer. Nos chiens, il faut apprendre aux gens à ne pas se faire désobéir à leurs chiens, mais leurs chiens sont nés obéissants. C'est une nature, si on l'a voulu comme ça. Et on a eu, il y a eu des gens avant nous qui ont fait un travail de sélection qui était d'une très très grande qualité. Et aujourd'hui, pour des raisons, on va dire, mercantiles, voilà, on va employer le terme, c'est une question d'argent, on est allé vers le grand n'importe quoi. Et Alors je peux comprendre qu'on aime un chien comme ça ou comme ça, je suis pas là pour juger les gens. Chacun a son style de chien, ce qu'il aime, ce qu'il veut, etc. Mais on devrait instaurer un certain nombre de règles pour faire attention aux dérives, les dérives qui sont parfois dommageables. On a vu en Angleterre un scandale sur les Kinchar qui naissaient avec des boîtes crâniennes trop petites. Les chiens à 6 mois mouraient dans des souffrances atroces. Le Air France qui refusait, je crois, savoir les chiens avec les nez trop courts parce qu'ils risquaient de mourir dans les avions. C'est un phénomène qu'on a observé depuis très longtemps. Vous avez des boxers qui supportent plus la chaleur du tout. Ou un simple coup de chaleur peut les tuer. Parce qu'il fait, d'un seul coup, il y a une augmentation de la température. On est, si vous voulez, aujourd'hui, ce ne sont pas des gens compétents qui dirigent tout ça, et ce ne sont pas des gens forcément qui sont... On nous parle de bien-être animal, mais ils n'en sont pas réellement soucieux. Je pense qu'ils sont plus soucieux que les élevages fonctionnent et que ça rapporte des sous pour certaines personnes. Voilà. Aujourd'hui, la centrale canine est dirigée par des consommateurs et pas par des professionnels, que ce soit des professionnels... quand j'en parle, des gens qui ont des réelles compétences de l'utilisation ou de l'élevage. Si demain, par exemple, le représentant des bouchers en France était quelqu'un qui achetait son steak toutes les semaines, je pense que les bouchers, ils ne seraient pas très contents. Si demain, le représentant, on va dire, de En Marche, ça devenait quelqu'un du Parti Socialiste, ils ne seraient pas très contents non plus. Je crois qu'il faut avoir des représentants par famille. C'est comme ça que ça fonctionne. Le représentant du tennis, ça doit être quelqu'un qui est quand même dans le monde du tennis. Le représentant de la radio, si jamais ça devait exister, ça devrait être quelqu'un qui travaille vraiment dans une radio.
Alors Stéphane, bon, comment c'est arrivé cette passion, vous, des chiens, du sport canin, c'est pareil. Et donc vous avez une certaine philosophie dans votre métier, oui, hein, il faut dire, voilà, c'est des valeurs, ça vous ne voulez pas en déroger.
Oui, moi je suis, attention, quand je tiens un centre, j'ai en moyenne 200 clients qui viennent en obéissance chez moi. Et effectivement, pour moi, ce qui est très important, c'est respecter l'intégrité physique et mentale du chien, quelle que soit la méthode qu'on emploie. Je suis pas en train il faut dépassionner le débat, mais être passionné dans ce qu'on fait pour être motivé et aller au bout des choses. Et ensuite, dans la vie, quoi, j'ai entendu parler de ça, ça m'a vachement intéressé tout à l'heure. On n'est pas ce que l'on dit, on est ce que l'on fait.
Ah, oui, très souvent. Donc,
et ensuite, pour être crédible, faut dire ce que l'on va faire et faire ce que l'on dit. Ça, c'est très important. Mais aujourd'hui, bon, la bonne nouvelle, c'est que les sélectifs, la finale, auront lieu cette année, malgré ce que souhaitait faire la SCC.
Donc la semaine prochaine, on va rappeler les heures, hein, samedi-dimanche.
Samedi-dimanche, c'est de 7h à 19h à peu près. C'est les meilleurs chiens, c'est les studios au niveau, là. C'est vraiment
très haut niveau. Donc là, on pourra apprécier, effectivement. Alors, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il va y avoir des démonstrations?
C'est individuel, c'est chien par chien qui passe. Oui,
et il y a donc un jury qui les note. Comment ça se passe?
Des jurys qui ont été sélectionnés, avec des hommes d'attaque, des hommes assistants. Je me suis trompé de terme, c'est ancien terme, hommes d'attaque, hommes assistants, qui ont été sélectionnés sur le fil. Les chiens ont réussi un cursus avant d'arriver là. Ils ont fait des présélections, ils ont marqué un maximum de points, et on prend les meilleurs de chaque région.
D'accord.
Et donc ce sont les meilleurs de chaque région qui vont se disputer pour les 28 places pour la finale. 26 finalistes et 2 chiens en blanc. Qui aura lieu mi-décembre dans la région de Bordeaux.
D'accord. Okay.
À Pauillac, je crois.
Ouais, donc c'est un beau spectacle qu'il faut aller voir. Vous en faites souvent des championnats de ce type dans votre centre de la ville là-bas?
Nous, on a régulièrement organisé des beaux événements sélectifs, championnats d'Île-de-France, choses comme ça. Effectivement, donc on est un petit peu habitué, on sait à quoi s'attendre pour ce week-end. Mais par contre, c'est toujours un plaisir de voir évoluer des nouveaux chiens. La carrière d'un chien, c'est très court, c'est 4-5 chiens. Donc à chaque fois, il y a toujours plaisir de découvrir un jeune qui arrive.
C'est combien de
carrières? De voir un chien qui en a sa 4-5e tournée, qui est toujours là. Il a été endurant, il est là, quel super chien. Ça, on a une certaine admiration pour nos chiens, c'est effectif.
Une carrière dure en moyenne combien?
4-5 ans.
Ouais, c'est ça.
On met 4-5 ans pour le construire, 4-5 ans de carrière.
Il y a qui arrive à avoir une carrière plus longue.
Maïnois, c'est le meilleur chien de travail au monde. Et d'ailleurs, les éleveurs de chiens de travail, parce que dans le Maïnois, vous avez deux catégories, le Maïnois de beauté et le Maïnois de travail. Le Maïnois de beauté, il est beau. Il est beau pour eux, pas pour moi, mais enfin, il est beau. Il ressemble à un standard, etc. Il est dans un standard, il est standardisé physiquement. Bon, bah, le Maïnois de beauté est inapte au travail. Aujourd'hui, on le sait que 100% des Maïnois de beauté ne peuvent pas aller au niveau. Donc c'est une race de travail, on la sélectionne pour soi-disant pour faire du chien de travail, et ils sont pas capables d'aller à haut niveau. C'est-à-dire que dans la sélection de cheptel, on se trompe quelque part. Après, attention, le Maïnois, c'est un chien de travail, j'en vois de plus en plus chez des particuliers, etc. Je rebondis un peu là-dessus, c'est un peu hors sujet, mais que les gens fassent très attention, quand on prend un Maïnois, il faut aller à 3 mois dans un club d'éducation canine. Pas à 8, 10, 12 mois quand c'est trop tard. Il faut y aller à 3 mois et faire les choses correctement dès l'âge de 3 mois.
Et voilà. Ça veut dire que tout commence au début. Hein, ça, c'est ce qu'on peut dire à nos amis auditeurs de ce matin. Ça commence dès le début. Dès qu'on a un chien, c'est tout de suite qu'il faut les.
D'une manière générale, l'éducation d'un enfant, ça commence quand il est
né. Pareil,
Donc le chien, c'est un petit peu pareil. Un enfant, c'est 18 ans et encore. Un chien, c'est 15-18 mois. Vous commencez à 3 mois, il ne faut pas comprimer le temps. On travaille des choses sur un chiot de 3-4 mois, parce que ça correspond à son âge. À 10 ans, c'est encore autre chose. Donc, pas pareil pour un enfant. Un chien, c'est pareil. 3-4 mois, on fait des choses. 12 mois, 18 mois, etc. Le chien, on doit aller progressivement suivre sa maturité. Ce qui est comparable, c'est la maturité, pas l'intelligence. J'ai entendu parler des fois d'un chien qui était aussi intelligent qu'un enfant de 3 ans. C'est pas vrai. C'est pas vrai. J'aimerais bien qu'on me le présente, ce chien. Qu'un chien, ça peut retenir 300 mots. C'est pas vrai. Les gens confondent contextualisation et verbalisation. Un chien, ça peut pas. Ça ne peut pas verbaliser 300 mots, c'est pas possible.
Et il y a des retardataires, ceux qui ont eu une mauvaise éducation, dirons-nous, au bout d'un an et demi. Alors, c'est possible de les rattraper ?
Très intéressant.
Ouais. Là,
on est dans une dérive générale, hein, si vous voulez. Ouais. La SCC, pour des raisons, je ne sais pas lesquelles, a cautionné certaines façons de faire qui ne sont pas forcément inintéressantes, de certaines méthodes d'éducation, et la méthode positive notamment, etc., qui est une bonne méthode, mais qui, attention, dans certaines circonstances, est dommageable et a des effets pervers très graves. L'année dernière, j'ai récupéré de professionnels ou de clubs autour de ma structure 60 chiens. Ce qui est énorme, c'est 10 fois plus qu'avant. Cette année, je suis déjà à 80, l'année n'est pas finie. Ça veut dire que des gens, des fois que je n'ai que quelques cours à faire dessus pour rattraper les problèmes, des fois il ne faut que 5 minutes. Ça fait un an qu'il galère, c'est le cas, et là des fois il ne faut que 5 minutes. Et en fait, si vous voulez, ça par contre ça m'inquiète. Ça m'inquiète beaucoup parce qu'on a moins de chiens qu'avant en France. On doit être à 7 millions de chiens en France par rapport à une vingtaine d'années, on doit être plus de 10 millions de chiens. On a de moins en moins de chiens, il y a beaucoup plus de professionnels du chien. La réponse qui est donnée est de mauvaise qualité. On a de plus en plus de problèmes de comportement, de chiens qui sont agressifs, qui mordent des gens, etc. Il y a un problème sur la réponse qui est donnée aux gens qui, de bonne foi, vont voir quelqu'un pour éduquer leur chien.
Oui. Et Stéphane, quand on fait de la compétition, naturellement, la qualité première, c'est la complicité entre donc le chien et son maître. Hein. C'est indissociable, c'est indispensable. Hein.
Alors, il faut savoir que les chiens ne nous aiment pas. Souvent, j'entends pas ça. C'est un peu dur ce que je viens de dire. Les chiens ne nous aiment pas. Les chiens sont des opportunistes. Ils s'attachent à nous.
Ouais.
L'attachement, c'est plus fort. L'attachement, il vient de la complicité. C'est vrai, effectivement, qui elle vient du respect et de la confiance. Respect, confiance amène à la complicité à l'attachement. L'attachement, c'est très très fort, mais ça prend du temps. Un chiot ne va pas être attaché, ne va pas s'attacher à ses maîtres au bout d'une semaine, 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Il va lui falloir plusieurs mois, voire des fois 2 ou 3 ans. Et là, l'attachement est très très fort. Si, par exemple, vous vous séparez d'un chiot de 4-5 mois, je vous assure qu'il va s'habituer à sa nouvelle famille très rapidement.
D'accord.
Par contre, une fois qu'il est attaché à sa famille, c'est un lien qui ne se brise pas, qui dure très longtemps. L'adage qui dit que le chien est fidèle, c'est vrai. Une fois que le chien est attaché à vous, il est vraiment attaché à vous. Et regardez, chez l'être humain, c'est exactement la même chose. Vous prenez une maman qui met au monde un enfant, si on lui enlevait du jour au lendemain, elle ne peut pas dire qu'elle aime ses enfants, qu'elle n'a jamais vu, si elle le voit 10 ans après, mais par contre, elle y est attachée, c'est viscéral. Chaque jour, elle a pensé à cet enfant. Vous prenez un objet auquel vous tenez vraiment, vous perdez un objet auquel vous tenez, la médaille de votre grand-mère, une montre ou n'importe quoi, un objet, une photographie, quelque chose auquel vous tenez, qui vous dit, vous êtes fou, vous allez le chercher partout, vous êtes attaché à cet objet. L'attachement, c'est très fort, c'est fiable, ça dure dans le temps. Par contre, on s'aime, on se désaime, on divorce, etc. Donc ça veut bien dire que l'amour, c'est quelque chose qui va et qui vient, l'attachement, c'est quelque chose qui reste dans le temps, du solide.
Coach Canin, c'est une véritable vocation. Vous avez beaucoup de jeunes qui vous sollicitent, qui vous demandent certains conseils. Ça fait rêver.
Alors je prends des stagiaires tout le temps, troisième, etc. Je parle j'adore mon métier, j'adore ce que je fais.
Oui.
Ça
se voit.
Ça depuis 33 ans. À fond, 12, 15 heures par jour, 24 heures par jour. Si vous voulez, mais par contre, il y a beaucoup d'idées reçues sur ce milieu. Pour former un bon éducateur, il faut 3 ans. Pour former un comportementaliste, il faut 15 ans. Donc, quand je vois des structures qui proposent des formations 6 mois d'éducateur canin ou de comportementaliste, pour moi, je vais être violent, c'est l'escroquerie. Donc, ça n'est pas possible. On ne peut pas comprimer le temps. Faire un expert, déjà, ça a été démontré dans n'importe quel domaine, c'est minimum 10 000 heures de travail.
Ah oui.
Et puis une fois qu'on est formé.
Il y a le terrain après. Hein.
Une fois qu'on est formé. C'est-à-dire que la personne est formée et elle va faire 10 000 heures d'expérience. Et là, on peut considérer que c'est un expert. Bah, c'est pareil pour faire un comportementaliste ou un éthologue. Éthologue, comportementaliste, dresseur, c'est la même chose.
C'est un sport, pour finir, c'est un sport qui permet de gagner pas mal d'argent, non ?
Non, c'est un sport de passion.
Ouais, ouais, bien
c'est
sûr.
Ce qui me fait vivre, d'ailleurs, c'est pas le ring. Ouais. J'entraîne mes copains. C'est pas du tout rentable. C'est-à-dire, ça n'a pas de rentabilité du tout.
Et les chiens, ils ont quand même une certaine valeur marchande, un peu comme pour les chevaux.
C'est assez paradoxal. Oui. Un chien qui est beau vaut plus cher qu'un chien qui est bon.
Ouais. Ah ouais.
Oui, c'est vrai.
Et le chien qui est champion du monde ou champion de France, il vaut plus cher quand même.
Non. Oui, des Américains vont nous acheter des chiens. C'est le terme extraordinaire, mais c'est un peu vrai. Mais on n'a pas de... Non, c'est pas... Il n'y a pas... Dans le milieu du travail, on n'est pas... C'est pas l'argent le moteur.
Très bien. Eh bien, Stéphane, tiens, pour la peine, vous allez faire comme Romain, vous allez lancer la pause musicale. Allez.
Bah écoutez, la pause, et puis à bientôt.
Envie de nager ou de se détendre? La piscine des Molières aux Essert-le-Roi offre des espaces aquatiques pour petits et grands. Le bassin de 25 mètres, dont la toiture permet une ouverture intégrale, le bassin ludique avec canon à eau et contre-courant et la pataugeoire. Il est aussi possible de profiter du grand jardin pour les bains de soleil. D'autres activités sont à découvrir. L'espace forme avec vélo elliptique, rameur, sauna, hammam, l'aquagym et l'aquabike. Plus d'infos sur www.rt78.fr.
Briffo Électricité, entreprise familiale depuis 1981, est votre spécialiste dans les Yvelines pour tous vos travaux électriques. Création et rénovation chez les particuliers comme les professionnels. Nous vous proposons également l'installation d'interphones, de vidéosurveillance et de détecteurs incendie. Briffo Électricité motorise vos portails, vos portes de garage et assure l'installation et la gestion de votre chauffage électrique. Votre satisfaction est aussi la nôtre. Devis gratuit, dépannage rapide. Informations et réservations au 01 30 46 11 56 ou sur notre site briffo-électricité.com.
Vous recherchez la brillance absolue? L'horlogerie bijouterie Joaillerie Galloni, 19 rue du Général de Gaulle à Rambouillet, vous invite à découvrir le seul diamant carré taillé comme un brillant rond parfait. Le Flanders Cut est un diamant d'exception à la brillance extrême, fait pour vos colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, bagues, bracelets et parfait pour toutes les formes de sertissage. Pour le plaisir d'offrir, choisissez le Flanders Cut à la brillance extrême. Horlogerie bijouterie Joaillerie Galloni, 19 rue du Général de Gaulle à Rambouillet. Ouvert de 10h à 19h mardi, jeudi et samedi et de 10h à 12h30 et de 14h à 19h le mercredi et vendredi.
Viens petite fille dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des
clip, crack,
des
bang,
des
bang,
et des
zip, shabam, pow, flop, wheel.
Je distribue les swings et les uppercuts, ça fait
vlam,
ça fait
splash,
et ça fait
stop,
ou bien
bang,
ou parfois même
zip, shabam, pow, flop, wheel.
Viens petite fille dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des
clip, crack,
des
bang,
des
flop,
et des
zip, shabam, pow, flop, wheel.
Viens avec moi par-dessus le building, ça fait
wheel
quand on s'envole et puis
cling.
Après quoi je fais
tilt,
et ça fait
boing, shabam.
Comic strip, viens faire des bulles, viens faire des
whip,
des
clip, crack,
des
bang,
des
flop,
et des
zip, shabam, pow, flop, wheel.
N'aie pas peur, bébé, agrippe-toi, je suis là,
crack,
pour te protéger,
crack,
ferme les yeux,
crack,
embrasse-moi,
slap, shabam, pow, flop, wheel, shabam.
Vivez le sport dans votre région avec RVE.
Bon ben voilà messieurs, cette émission se termine. Donc Stéphane, on va rappeler 19 et 20 octobre, Olainville.
83 route de Limours.
Voilà, c'est ça. Oui. Grande compétition. Et puis ensuite, il y a autre chose qui vous attend dans le restant des autres semaines, des autres mois.
Oui, il y aura un autre sélectif un mois après. Normalement, il y en a trois, mais comme l'année a été écourtée, donc il n'y en aura que deux, avec la finale après, au mois de décembre, c'est le 15 décembre, si je ne m'abuse, il faudrait que je vérifie la date. Voilà. Mais en tout cas, un très grand merci, Philippe et Hervé, de m'avoir invité à nouveau.
C'est
un très grand plaisir.
Et vous revenez quand vous voulez. Voilà.
Un grand plaisir.
Et puis Romain.
Et je suis très heureux d'avoir rencontré Romain.
Et puis Romain, donc, la suite pour vous, là, dans les prochaines semaines.
Bah là, nous, on est en plein début de saison, donc on va suivre un petit peu les progressions individuelles de chacun de nos joueuses et de nos joueurs. Et puis on va commencer à préparer le championnat de France aussi tout doucement. J'ai prévu que les joueurs s'entraînent un peu plus ensemble. Et puis qu'on fasse un peu de team building, qu'on apprenne à se connaître, qu'on crée un peu la cohésion de groupe, parce que finalement, avec ça, on peut aussi relever des montagnes. Donc on va s'atteler à tout ça et puis continuer à développer, à travailler le club.
Ah tiens, au fait le Téléthon, non ? Quelque chose de prévu cette année ? Parce que Chevreuse est quand même toujours très investi dans le Téléthon, et notamment le tennis. Je me souviens de cette grosse balle il y a quelques années.
Alors on avait fait la grosse balle, et deux, on était partis dans un truc un peu fou, on avait fait les 24 heures de tennis.
Oui, oui, c'est ça.
Mais effectivement, on était bien fatigués sur les côtes 4-5 heures du matin. Mais donc cette année, il n'y aura pas, en tout cas, pour ce qui concerne le tennis, parce que d'autres associations prennent le relais, mais on ne fera pas d'action spécifique pour le Téléthon cette année.
D'accord, ok, mais bon, c'est prévu pour les autres années.
Oui, alors nous, en fait, cette année, on se concentre sur tennis solidaire, ça nous prend déjà beaucoup de choses.
Bien sûr, voilà. Pareil, hein, le micro est pour vous, hein, Romain, n'hésitez pas.
Un grand merci.
Voilà, merci en tout cas, merci Stéphane. Voilà, la semaine prochaine, tiens, on profitera de la fin de la saison de cyclisme pour recevoir l'association Les Forçats du Tour. On commentera aussi le Tour de France qui sera dévoilé cette semaine à Paris. Bon dimanche à toutes et à tous. Restez-nous fidèles sur l'antenne d'Hervieux. Et messieurs, une nouvelle fois, merci à vous. Bon dimanche.
RVE, il est 11h.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour, Agibis est passé en trombe sur le Japon en faisant des victimes et de gros dégâts. Le puissant typhon a touché l'est et le centre de l'archipel nippon la nuit dernière, provoquant la mort d'au moins 11 personnes. Il était qualifié de sans précédent par les services météorologiques et il n'a pas épargné Tokyo, la capitale japonaise, totalement paralysée par des pluies torrentielles. Des coups de boue, des glissements de terrain sont aussi signalés et 16 autres personnes sont portées disparues. L'électricité est coupée, les transports figés et les commerces fermé. Seul le match de rugby du mondial Japon-Écosse a pu être sauvé et sera donc joué. Après l'eau, le feu.